Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors déjà, avant de commencer le podcast, j'aimerais juste faire un petit trigger warning car aujourd'hui on va parler du trouble du comportement alimentaire. Donc si c'est un sujet qui vous met mal à l'aise, je vous laisse changer d'épisode. Vous le savez, quand je recherche des participants à mon podcast, je lance un casting sur mes réseaux et je laisse toujours une catégorie où vous pouvez proposer vos histoires. Et j'ai été super étonnée de voir que vous étiez hyper nombreux à me parler de vos histoires liées au TCA. Du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé important d'accueillir une professionnelle en la matière, Aloïse. Elle est coach sportive et nutritionniste spécialisée dans les TCA et l'endométriose. C'est de son parcours, de ses combats et de son quotidien qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue Aloïse. Ça va ?
Très bien.
Merci d'être sur le podcast. Est-ce que d'abord tu peux te présenter, nous dire qui tu es et qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
Avec plaisir, tu as fait une bonne présentation, bref. Du coup, moi c'est Aloïse, je suis coach sportive et nutritionniste dans la vie. Je me suis mise à mon compte et toutes mes journées sont de consultations en nutrition, de cours de sport, que ce soit en entreprise, dans des studios ou à domicile. Et je fais un mix de tout ça.
Ça te fait des journées bien chargées.
Ça me fait des journées extrêmement chargées.
Et du coup, pour les personnes qui connaissent pas, c'est quoi les TCA ? Et l'endométriose, avant qu'on rentre plus dans les détails.
Alors, pour les deux sujets du coup importants, parce que je me suis vraiment spécialisée en diète comme en sport, on peut faire mille choses. Et donc moi, je me suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. C'est vraiment quand la relation à la nourriture est difficile et ça va vraiment altérer notre image de nous. On va avoir une relation hyper difficile avec notre poids, avec notre corps et avec toute la nourriture. Mais c'est vraiment autre chose que se sentir mal et faire un régime. C'est quelque chose où toute la qualité de vie va y passer et ça va vraiment prendre la majorité de notre temps et notre pensée. C'est vraiment une maladie qu'on diagnostique.
D'accord. Et du coup, toi, tu es spécialisée dans les TCA, donc, comme on vient de dire, mais aussi, tu me disais lors de l'appel, en endométriose.
Oui.
Et ça, du coup, c'est quoi pour celles qui ne connaissent pas non plus ?
Eh bien, en endométriose, du coup, j'interviens aussi en côté diète et sportif pour apaiser un petit peu. Et l'endométriose, si on reste dans le terme médical pas trop difficile, c'est donc une maladie chronique inflammatoire, gynécologique et... tout notre tissu qu'on a, toute notre muqueuse utérine, en fait, c'est comme si elle sortait de l'utérus et qu'on pouvait en avoir en dehors de l'utérus. Et donc, ça se caractérise par des lésions qu'on peut voir via des IRM quand on est diagnostiqué, etc. Il n'y a d'ailleurs que l'IRM qui peut nous diagnostiquer. Et donc, c'est vraiment une pathologie inflammatoire qui va être localisée dans le ventre et dans les organes génitaux, en globalité, sauf et grosse exception.
Ok. Et toi, pour en arriver aujourd'hui ici, ça a été quoi ton parcours ? Quelles études t'as faites ? Comment est-ce que tu t'es retrouvée à te spécialiser dans ces deux sujets, justement ?
Eh bien, il y a plusieurs années maintenant, j'ai fait une école de diète, donc c'est un bachelor en 3 ans, où là, je ne savais pas du tout dans quoi j'allais me spécialiser, juste l'alimentation et tout m'intéresser. Je pensais être intéressée par le rééquilibrage alimentaire, tout ce qui pouvait beaucoup m'aider. J'ai beaucoup changé pendant mes 3 ans d'études. Dès que je suis arrivée à l'école, je savais que je voulais être coach sportive après et ça n'a pas changé. J'ai juste fait une pause d'un an. Je suis partie à l'étranger pour être sûre, pour faire une pause après ces études. Je suis revenue, j'ai passé mon diplôme de coach sportive au CREPS, donc c'est un an. Intense, okay. Mais c'est un an. Et après, dès ma sortie du CREPS, le lendemain, j'ai créé mon entreprise et je me suis lancée.
Et du coup, là, tes journées, en fait, c'est jamais pareil. Tu alternes vraiment entre les besoins des gens qui viennent te voir, si c'est plus sport ou si c'est plus diète, et en fonction des profils.
Ouais, en fait, c'est jamais pareil dans le sens où je me déplace beaucoup. Donc, je vais toujours changer d'endroit. Après, c'est beaucoup plus cool maintenant que je me suis vraiment du coup spécialisée et que, par exemple, en diète, je ne prends plus la globalité des personnes et que pour des vraiment pathologies spécifiques ou pour des pertes de poids classiques ou pour des rééquilibrages alimentaires, je sais envoyer vers d'autres collègues qui sont très fortes là-dedans. Tout ce qui va être consultation, ça va plus être en visio. Donc, ça va être très facile pour moi de placer entre les coachings. Et les coachings vont être entre dans des domiciles et beaucoup dans des studios. Donc, je vais intervenir dans des studios, dans des entreprises, etc. Et tout ça, j'essaye de le mettre dans ma journée. Donc, ça va être le soir, le midi, le matin, entre chaque. Mais j'ai très peu de pauses.
Mais t'aimes ce que tu fais.
J'adore ce que je fais et du coup, ça me tient. Et toujours quand je rentre le week-end, je dis, mais là, j'aimerais encore plus travailler. Et tout le monde me dit, mais non, il faut vraiment canaliser, essayer. Et c'est pour ça que déjà, je me dis que je travaille là-dedans, je vais au bout de ces projets-là. Mais en fait, j'ai vraiment envie d'avoir le maximum de personnes, de dire oui à tout le monde. Et du coup, c'est hyper difficile, mais en tout cas, j'adore.
Parce que quand les gens ils viennent te voir pour une problématique, tu les suis, enfin ils arrivent et tu les suis jusqu'à leur guérison, on va dire, tu les accompagnes tout le long.
C'est ça, si on va vraiment du côté diète, en fait ils prennent contact avec moi au début, c'est vraiment via un bilan nutrition, où là on va voir comment nous on va travailler, je vais voir s'il y a vraiment un TCA, quels axes on va travailler en premier, comment moi je vois la chose et je vais essayer d'apaiser déjà la personne et en lui montrant par où on va passer, que ça peut être long. Pendant tout ce parcours-là, on va avoir des visios, des rendez-vous qui vont être moins longs que ce premier bilan. Et là, je les suis vraiment jusqu'au bout. Il y a des périodes où elles vont vouloir relâcher et pas me voir pendant des mois et d'autres périodes où elles vont revenir très souvent, ça va vraiment varier.
C'est quoi l'âge à peu près moyen que tu as dans tes patients et tes patientes?
Aujourd'hui, que je me suis spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire, l'âge, elle a vraiment diminué. C'est beaucoup, environ 20 ans, jusqu'à 25 ans, même très jeune, ça peut commencer jusqu'à 18, puisque beaucoup attendent d'être majeurs, mais je pense que ça commence bien plus tôt.
Parce que tu ne peux pas consulter avant ?
Avant, je pourrais, mais il faut l'autorisation des parents.
Ah, ok.
Et très souvent, c'est ça qui va mettre un blocage à la personne, puisque on ne va pas forcément en parler aux parents, ça va plutôt être une honte. Donc en fait, dès qu'on va avoir 18 ans, dès qu'elles vont avoir 18 ans, elles vont prendre contact avec moi pour prendre ce premier rendez-vous et je les suivrai jusque là où je peux, là où je peux les emmener.
Et pourquoi tu penses que justement, c'est plus des... Parce que la plupart, c'est des filles ou des garçons ou c'est assez mixte quand même?
Moi, j'ai que des filles. Après, les troubles du comportement alimentaire, c'est quand même mixte. Ça peut arriver. Après, dans les vrais pourcentages, il y a quand même beaucoup plus de femmes que d'hommes.
Et, pourquoi tu penses des jeunes filles
Je pense que l'adolescence, déjà, elle est tellement dure à vivre pour tout le monde, mais pour les filles. Aujourd'hui, tout ce qui est critique, réseaux sociaux et tout, ça s'est multiplié. On prend tout de suite à cœur et on veut tout de suite aller contre ça. Et je pense que c'est en fait l'adolescence, là où déjà on remet tout en question et où la moindre chose peut nous faire vriller et partir dans des extrêmes. Et l'alimentation, elle est au cœur de tout, puisque le corps et notre image, elle est au cœur de tout aujourd'hui.
Ouais, en fait, c'est plus... Peut-être qu'on a tendance plus, surtout quand on est jeune, à se comparer à ce qu'on voit sur les réseaux. Et surtout en tant que femme, tu vois beaucoup de corps, de trucs ou juste des... C'est vrai que sur les réseaux, il y a une tendance à faire un peu la routine parfaite, vie hyper healthy, machin et tout. Et pour vous le dire, c'est très facile de faire semblant de cuisiner hyper bien, d'aller faire ton petit sport et tout, alors qu'au final, t'es dans ton lit la moitié du temps et tu manges un bon plat juste pour la vidéo.
Exactement.
Donc c'est vrai que je comprends que ça soit dur pour les jeunes, surtout d'avoir le recul, de se dire c'est pas forcément la réalité, quoi.
C'est ce que j'allais dire, c'est exactement avoir le recul parce que parfois on va beaucoup beaucoup y travailler sur le fait de juste demander toi à quoi tu te compares et pourquoi tu te sens mal aujourd'hui, et ça va être parce que sur les réseaux j'ai vu ça, parce que sur TikTok il y a une vidéo où la fille elle a mangé ça, elle a perdu 5 kilos et moi si je le fais et machin, et en fait ça va hyper loin et on prend vraiment le recul de se dire mais déjà chacun est différent, mais c'est un âge où c'est très difficile,
c'est dur, ouais.
Hyper difficile, mais en fait sur les réseaux on met ce qu'on veut, et généralement même quand on vient me voir on me dit là cette semaine j'ai fait n'importe quoi parce que je savais que j'allais venir vous voir, et pour moi c'est la pire phrase.
Ah ouais.
Parce que après ils vont avoir encore plus accès à tout, parce qu'au contraire je vais vraiment remettre accès à toute l'alimentation, il y a aucune, enfin jamais je dirais de pas manger quelque chose ou autre, et en fait la diététique ou l'alimentation aujourd'hui c'est vraiment vu déjà pour perdre du poids, c'est plus pour être en bonne santé, c'est vraiment pour l'image et pour perdre du poids, et c'est classé, ça veut dire que pour autant je vous jure que je mange plus de pain, je vous jure, et moi je suis là et je viens de de manger un sandwich et mon flan et je me dis ah c'est horrible, j'aimerais tellement qu'elle mange comme moi et donc du coup bah je me sers de mon expérience aussi mais j'essaye de c'est long mais de déculpabiliser de surtout de dédiaboliser
oui en fait tu réadaptes toute l'alimentation mais t'enlèves pas, tu dis pas en mode non bah là tu ne manges plus du tout de tel chocolat
tout le contraire
parce que c'est ça aussi dans la tête j'imagine qui si tu te prives tu te dis ah non faut pas que je mange ça parce que ça va faire que je vais prendre tel kilo, tu culpabilises et au bout d'un moment tu craques et c'est comme
en
ça
fait,
que ça comment ça se crée en fait le trouble du comportement alimentaire.
Il y a mille causes. Très souvent, et sur un sujet sur lequel je travaille énormément, qui revient le plus souvent, et c'est là où on peut se dire que peut-être il y a un problème avec l'alimentation, c'est la restriction cognitive.
Okay.
Ça veut dire que c'est vraiment quand on classe des aliments qu'on peut manger et d'autres qu'on ne peut pas manger. Et donc, dans ce cas-là, tout ce qu'on ne peut pas manger, en fait, on va être toujours attiré. Ça veut dire que si demain, on me dit, bah, c'est OK le chocolat, bah, en fait, peut-être que j'en aurais pas envie matin, midi, soir. Mais par contre, si c'est quelque chose qui, dans la tête, va me faire grossir à la minute et tout, bah, le midi, le soir, j'ai envie de mon chocolat. Et à force de lutter, en fait, contre ces envies, bah, le jour où on va avoir accès à ce chocolat, que ce soit dans un goûter, que ce soit dans une fête, et ça va être, ou tout seul, ça va être un moment donné où on va manger en beaucoup plus grosse quantité, à se dire foutu pour foutu, je vais aller au bout de cette plaquette et au moins demain je recommence et je fais tout carré, je reprends un rééquilibrage alimentaire et je retourne au régime et du coup on retourne dans cette restriction mais on retourne dans... Et en fait c'est ce cercle vicieux et en fait plus ça s'ancre, plus c'est difficile et c'est pour ça que plus on prend ça dès le début, plus on trouve qu'on a un mal-être, mieux c'est.
C'est souvent toi les mêmes phrases qui reviennent au début des premières consultations. Qu'est-ce qu'elles viennent te dire, comment elles abordent le sujet? Elles se rendent compte que c'est grave ou pas?
Ouais, dans les premières consultations. En fait, les réseaux, ils ont double sens un peu parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'en sortent et qui le partagent aussi sur les réseaux. Et donc, on me dit, je sais que j'ai un trouble du comportement alimentaire et que c'est pas bien. Il y en a qui veulent quand même y rester, où c'est quelque chose qui est très rassurant, un trouble du comportement alimentaire, on va avoir le contrôle sur l'alimentation, on va avoir le contrôle sur quelque chose dans la vie, où dans notre vie, on a le contrôle un peu sur rien du tout. Et là, on sait qu'on peut avoir ce contrôle sur l'alimentation et on va aller au bout de ça. Et donc, elles vont souvent me dire qu'en fait, c'est plus fort qu'elle et que la peur de grossir est énorme. Et que toutes les pensées vont être autour de l'alimentation. Ça veut dire qu'il y en a qui vont en cauchemarder quasiment toutes les nuits. Ça les réveille. C'est que dès le matin, elles ne vont pas penser à ce qu'elles ont dans leur journée ou à leur cours qu'elles ont. Ça va être comment je peux manger. Ou au contraire, comment ce midi, je vais réussir à ne pas manger. Comment les personnes ne vont pas s'en apercevoir. Comment mes potes ne vont pas s'apercevoir que je ne viens pas au self avec eux. Comment... Et c'est en fait, tout est autour de ça puisque... Et il y a vraiment une peur de manger ou peur de... Ou dans des situations comme de la boulimie, peur de compulser, peur... Mais tout va être autour de l'alimentation. C'est vraiment... Les pensées globales sont autour de ça.
En fait, c'est vraiment dans la tête, quoi. Et la...
C'est que dans la tête.
C'est ça.
Ça se passe, c'est... Il y a un énorme côté psychologique, mais c'est énorme dans la tête et c'est des idées qu'on s'ancre. En fait, comme je dis tout le temps, le truc du comportement alimentaire, il arrive pas en une journée. Il arrive parce qu'un jour, on va peut-être vouloir mincir ou parce qu'on va avoir reçu des réflexions, parce que notre mère, ça fait depuis jeune qu'elle nous demande de perdre du poids et qu'arrive à l'adolescence, qu'on se retrouve seul, nous, on a envie de relâcher et qu'on crée des mauvaises habitudes et des mauvaises pensées, qu'on n'a pas confiance en nous et ça arrive. Donc, ça part pas du jour au lendemain et on reprend vraiment l'alimentation à zéro. Enfin, c'est comme un enfant, quoi. On reprend tout, un par un.
Et ça va dans les deux sens. Par exemple, est-ce qu'il y en a qui ont un trouble du comportement en mode ils vont plus du tout manger et il y en a au contraire qui vont beaucoup plus manger. C'est tout, quoi.
En fait, c'est tout. Ça dépend vraiment. Par exemple, dans l'anorexie, ça va vraiment être des personnes qui vont très peu manger. Ça peut être des situations extrêmes où là, ça va être la peur de la calorie. Enfin, la calorie, c'est vraiment l'ennemi pour la personne. C'est vraiment une vraie peur et ça prend toute la place. Ça veut dire que même un repas avec la famille, donc les personnes qu'on aime le plus au monde, va être moins important que de se dire j'ai mangé très peu de calories, c'est OK. Ou là, peut-être que j'ai été au-delà de mes besoins et comment je vais faire pour compenser ça et je vais devoir aller courir et machin et truc. Et dans la boulimie, il va y avoir toujours ce système de compensation. On compense, en tout cas, on va commencer par soit aller courir, soit manger beaucoup moins après, il y a mille choses, mais il y a ce système compensatoire. C'est-à-dire que boulimie, on va manger énormément et dans un laps de temps très court. Ça va être comme une crise qui va être liée par une frustration qu'on a eue avant ou quoi, mais là, on va beaucoup manger, on va essayer de compenser après par mille choses. Chacun ses propres moyens, ça peut être des laxatifs, ça peut être de se faire vomir, ça peut être... En tout cas, le fait, c'est que les calories qu'on a ingérées, on veut les enlever.
Okay.
Et l'hyperphagie, ça va être les trois que je vais retrouver le plus. L'hyperphagie, c'est pareil, de manger de grosses quantités en laps de temps court, mais il n'y a aucun système compensatoire après. Donc, on garde tout ce qu'on a mangé.
Ok.
Ça va être les trois qu'on va retrouver.
Les trois les plus... Et Comment est-ce que tu les accompagnes? C'est quoi un peu le déroulé pour les faire sortir un peu de ce système qui doit être dur quand même à effacer, quoi?
Ouais, c'est hyper dur. Et en fait, je repars de zéro et surtout, je repars de ce qu'elles sont capables de faire. Et j'essaye de les ouvrir en montrant qu'il y a autre chose et que je dis tout le temps que dans les TCA, on a tous une petite voix dans les troubles du comportement alimentaire. Et c'est cette petite voix, en fait, qui essaye de tout nous dicter. Et j'essaye de leur dire qu'il y a une autre voix. Et que c'est celle-là qu'on doit un peu plus écouter. Ça veut dire qu'on va travailler, on va retravailler sur les sensations alimentaires, on va travailler sur cette restriction cognitive, on va travailler sur l'image corporelle, on va travailler sur la faim, sur l'envie, sur essayer de ressentir, parce que à force de s'empêcher de manger, on ne ressent même plus la faim. Donc elles peuvent vraiment me dire, mais moi, je n'ai pas faim dans tous les cas, ça va. Mais tout le monde a faim. Et même si on ne va pas gargouiller, ça va être de la fatigue tous les jours. Ça peut aller jusqu'à s'évanouir. Mais dans tous les cas, il y a des symptômes qui vont être différents. On va prendre chaque pensée qu'elles ont. Très souvent, elles ont un carnet.
D'accord.
On écrit toutes les pensées qu'elles ont autour de l'alimentation et tout ce qui est vraiment trop dur à vivre pour elles. Et je vais m'appuyer sur ça. Donc, ça va être les mêmes axes, mais que je vais vraiment individualiser pour chacune.
Et parfois, ça va plus loin que ce que toi, tu peux gérer. Ça demande une hospitalisation ou pas ?
Parfois, oui. Déjà, ça va plus loin dans le côté psychologique.
Mmh.
Et très souvent, il y en a qui me disent « mais j'adore, on voit tout le côté psychologique avec vous ». Et c'est vrai, j'ai un côté énorme, mais ça s'arrête. Il y a un moment donné où je ne vais jamais plus loin puisque ce n'est pas mes études et que je ne connais pas assez. Moi, je connais tout ce qui va être en lien avec l'alimentation. Mais il y a un moment donné où je vois, ça peut venir tellement de l'enfance, je vois que quelque chose ne va pas. Je peux y travailler, mais je ne vais pas approfondir la chose.
Mmh.
Et donc là, je dois travailler avec des psychologues ou autre chose. Et dans l'anorexie, il y a l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, qui peut être trop bas à un moment donné.
D'accord.
Et où la santé, en fait, ça va être trop important là, de la prendre en charge. Et en fait, il y a un poids au revenir. C'est, souvent, en anorexie, déjà, les femmes, elles perdent leurs règles. On n'est plus réglé, etc. Puisqu'en fait, notre corps, il n'a vraiment plus assez d'énergie pour vivre.
D'accord.
Et donc, on est toujours en réserve. On s'économise. Le corps, il puise le moins possible puisqu'on a zéro énergie. En fait, sans calories, on n'a pas d'énergie. Sans énergie, on meurt. Donc, en fait, ça va jusqu'au bout. Et il y a un moment donné où, quand c'est trop important, c'est obligé d'aller dans une hospitalisation et on va devoir manger malgré nous.
Oui, que ce soit traité avec des médicaments, avec un savoir-faire plus médical, plus hospitalier.
C'est
quoi.
Ça. Mmh. Et une fois que ça s'est réglé, on peut reprendre. Mais en tout cas, quand la vie n'est plus en danger, on va dire.
Oui. Tu as un parcours d'une personne que t'as aidée, que t'as accompagnée et qui aujourd'hui va mieux grâce à toi.
Ouais, j'ai plusieurs parcours de personnes qui m'ont vraiment marquée. Ça peut être comme des jeunes filles que j'ai eues ou des jeunes femmes que j'ai eues là en nutrition, comme des mamans. En fait, je vais avoir vraiment des extrêmes.
Okay.
Il y a des femmes plus âgées qui sont venues me voir, des mères de famille qui vont vraiment avoir caché ça à toute leur famille. Et ça, je me dis, j'y pense encore tellement souvent à me dire que leur mari n'est pas au courant et que le mari fait encore des réflexions tous les jours à sa femme sur ça.
Ah, c'est horrible.
Et en fait, elles s'enterrent là-dedans et c'est hyper difficile. Et je me dis, en mère de famille, devoir cacher ça du coup, aux gens les plus proches. Et j'y repense beaucoup. Et c'est des cas qui sont un petit peu difficiles.
Oui, pourquoi ils ont honte en général Parce que tu disais même au début, les jeunes, elles n'osent pas en parler aux parents. Là, si la maman, elle n'ose pas dire à son mari, qu'est-ce qui fait qu'elles...
Ouais. C'est très honteux, je pense, de... Déjà, de se l'admettre, ça peut être une honte, de s'admettre que parfois, on va manger des quantités. En fait, elles ont vraiment honte des quantités qu'elles peuvent manger parfois, alors que ça arrive à beaucoup de personnes. Et de dire qu'on a un trouble du comportement alimentaire et de dire que parfois, en fait, on va pouvoir manger tout le paquet de gâteaux et qu'on ne va pas s'arrêter à là, qu'on va tout vider. Et il y a parfois des mamans qui allaient vider, je vais dire l'intégralité de leur cuisine, mais quasi. Ça va être jusqu'à aller manger des œufs crus juste pour se...
Ah ouais.
Vraiment, en fait, c'est vraiment se remplir. Mais du coup, avant que le mari arrive ou les enfants, aller faire les courses pour re-remplir exactement comment étaient les placards. Et le poids que c'est sur les épaules.
Déjà, être une maman, c'est beaucoup énorme. De travail avec ça en plus.
Ouais.
Ouais,
et c'est... Après, par contre, j'ai un parcours complètement opposé. Enfin, opposé, un autre parcours de jeunes que j'accompagne beaucoup. Où là, j'ai des retours super. Où on va vraiment jusqu'au bout de la guérison. Et où j'ai des retours qui me donnent envie de continuer ce métier jusqu'au bout de ma vie. Mais c'est génial. J'ai pris un retour, si ça intéresse.
Ah bah carrément.
Ça intéresse.
Un petit retour, c'est...
j'ai écrit un retour parce que c'est une... C'est une fille que j'ai suivie pendant plus d'un an. Généralement, les troubles du comportement alimentaire, c'est très long, puisqu'il va y avoir des moments où, en fait, on va retourner quasiment à zéro et des moments où on va tout reprendre. Mais en tout cas, cette fille-là, j'ai suivi jusqu'au bout et aujourd'hui, ça va très bien. Et je me dis, c'est l'exemple que j'ai envie de donner au plus de personnes possible. Et en fin d'année, elle m'a envoyé ce message en me mettant « Merci pour ce que vous avez fait pour moi et pour le travail que vous fournissez chaque jour pour le bien-être des autres. Je vous remercierai jamais assez de m'être sortie de cette misère. Ce n'est pas facile, il y a beaucoup de hauts et de bas. Mon parcours, je le vois vraiment comme des montagnes russes. Aujourd'hui, merci, car ça n'a rien à voir avec le début de notre prise en charge. Je suis venue vous voir avec la peur de manger et j'en ressors avec le plaisir de manger. Oh. C'est tout mon but. » Merci de votre aide, ça prend du temps mais ça en vaut la peine. Et j'ai reçu ça le matin et le soir la maman a dû trouver mon contact et m'a envoyé « Merci pour notre fille, le bonheur de la voir revivre grâce à vous ». Donc je me dis c'est quand même des mots énormes.
Mais comment tu vois pleurer ?
C'est énorme. On s'est senti si impuissant malgré avoir déjà demandé de l'aide auparavant. C'était vraiment éprouvant de voir notre fille comme ça. Merci pour tout ce que vous mettez en œuvre. Je suis fière de sa volonté et je me rends compte que tout le monde peut être touché par des moments de faille. Merci de votre investissement qui nous a sauvés de ce cauchemar. Et je me dis c'est des mots énormes.
C'est fou, bah, t'as changé sa vie quoi.
C'est ouf.
La vie de toute sa famille.
Et en fait c'est là où je me dis les troubles du comportement alimentaire ça prend. En fait, comme j'ai dit au début, ça prend vraiment mais l'intégralité de la vie de la personne, mais de son entourage aussi, parce qu'en fait, voir les parents, enfin voir sa fille, je pense, ne plus vouloir manger, ou du moins toujours, c'est vraiment des personnes qui sont hyper strictes envers eux-mêmes. Pour une maman et pour un papa, enfin pour tout l'entourage, c'est hyper difficile. Donc si je peux aider comme ça toute ma vie, je le fais.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et justement, pour les proches, peut-être qui voient un proche à eux être un peu dans les TCA, mais tu sais, c'est difficile quand tu vis pas ça, t'as peur de dire un mot de travers justement parce que t'as pas envie de lui faire du mal, mais tu veux l'aider. Est-ce que t'aurais peut-être des conseils à leur donner? Quelles sont peut-être les choses à ne pas dire déjà et les choses à dire pour les soutenir?
Déjà, c'est sûr que c'est difficile d'être l'entourage puisque c'est des personnes où les troubles du comportement alimentaire, ça va même agir sur le fait d'être hyper stressé, le fait d'être hyper anxieux. Ça va être des personnes qui vont s'énerver beaucoup plus vite qu'avant. Et en fait, on a envie de lui dire, mais juste, mange et vis, en fait. C'est vraiment... Et en plus, ça arrive à un âge où elles ont 18, 20 ans, où elles ont toute la vie devant
elles. C'est les meilleures années.
C'est les meilleures années. Parfois, quand je raccroche du visio, je lui dis à chaque fois, et va en soirée samedi, et t'inquiète, on se revoit lundi si tu veux, mais profite de ce week-end. Et ça va vraiment de comprendre que c'est... au-delà de leur volonté, dans tous les cas, même si moi-même, parfois, j'ai envie de leur dire, mais stop, on essaye de... En fait, c'est pas un manque de volonté, c'est vraiment au-delà de ça, c'est un mal-être hyper profond, d'essayer de comprendre, même si c'est long, de pas la forcer à quoi que ce soit, même si on voit que c'est difficile, de lui dire qu'elle la comprend, de complimenter, de dire, c'est le moment de dire vraiment à l'enfant ce qu'on pense de lui, dans quoi il est doué, de trouver un objectif à son enfant. Très souvent, quand on trouve un objectif de vie, en dehors d'un poids ou de son image corporelle, on arrive petit à petit à trouver autre chose, de lui dire, dans tes études, tu veux aller où? Plus tard, tu veux aller où? D'essayer de comprendre un maximum, même si honnêtement, c'est très difficile, mais de pas contrer, d'éviter d'être toujours...
De pas blâmer, de pas être en mode...
De pas blâmer, c'est
t'as
ça.
Pas mangé ou t'as
exactement.
Trop mangé.
Et de pas regarder les quantités qu'elle prend. Beaucoup, on me dit, en fait, à peine je me sers, ma mère, elle me dit, t'en reprends. Elle dit, mais pour moi, c'est déjà tellement dur d'avoir pris la première cuillère. Et je me dis, un parent qui y connaît rien, c'est hyper difficile aussi. Je comprends les deux côtés. Mais de se dire que c'est pas quelque chose à prendre à la légère. Et même le parent peut contacter un professionnel de santé et essayer de mettre en place tout ça, mais... de comprendre un maximum, même si c'est dur.
Oui, c'est dur et j'imagine... Enfin, je pense que ça doit exister des personnes qui s'en sortent seules, mais la plupart, c'est dur. Il faut quand même consulter.
C'est hyper dur. Moi, j'en parle très souvent dans mes consultations que j'ai eu des TCA, même si c'était moindre, et que je m'en suis sortie seule, mais j'étais en train de faire des études de diète. C'est-à-dire que j'étais toute ma journée entourée de cours de psychologie, entourée de cours de diététique, entourée de cours de justement sur les troubles du comportement alimentaire. Enfin, j'étais plongée là-dedans. Et donc, j'avais quand même toutes les grosses clés sur ça. Et puis après, j'étais dans un moment de vie où ça a été, mais c'était hyper long. Peut-être que j'aurais pris moins de temps et je m'en serais rendu compte peut-être avant en allant voir quelqu'un. Donc aujourd'hui, je pense que c'est indispensable pour la plupart des personnes.
Ouais, d'aller consulter. Ouais. Et les personnes qui nous écoutent, si vous vous reconnaissez dans le discours d'Aloïse et de ce qu'on aborde aujourd'hui, si par exemple, c'est trop cher une consultation, elles sont trop jeunes ou elles n'osent pas demander à leurs parents, tu aurais un conseil à leur donner pour, si elles ont envie, tu vois, de s'en sortir, mais elles sentent que toute seule, c'est difficile, quoi. Comment tu les aiderais ?
Eh bien déjà, gardez de l'envie et j'ai envie de vous dire, tous ceux qui se reconnaissent là-dedans, ayez cette envie puisque plus on le prend vraiment au début de ce trouble du comportement alimentaire et même avant le trouble du comportement alimentaire, on peut juste se dire, en fait, ma relation à l'alimentation, elle n'est pas saine. Ça ne va pas forcément être diagnostiqué TCA, mais ça peut quand même nous pourrir un bon côté de notre vie. Donc à partir de ce moment-là, se dire, allez, j'ai envie de m'en sortir et les consultations peuvent être assez chères. Après, déjà, se dire qu'une consultation diète, ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas toutes les semaines. Ça va vraiment s'espacer. Ça peut être tous les mois. On peut vraiment prendre le temps qu'il faut. Se servir des réseaux dans le bon sens. Ça veut dire enlever toutes les pages qui vont nous faire du mal. Ça veut dire même tout ce qui va être rééquilibrage alimentaire ou les personnes qui montrent leur assiette ou les personnes qui montrent un mode de vie qui nous font rêver, etc. Mais peut-être s'en détacher un petit peu et se dire, mais moi, qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me fait envie ? Et même si ça va jusqu'à enlever des pages, enlever les pages qui vous font du mal et auxquelles vous allez voir tous les jours et enlever les filles qui, du moins en ce moment, vous regardez leur corps et vous vous dites que on est tous hyper différents. Dans tous les cas, même si on perd 25 kilos, on n'aura pas le corps qu'on veut. Et voilà, de se recentrer sur nous-mêmes et peut-être d'aller sur des pages Insta sur ces troubles du comportement alimentaire. Il en existe beaucoup. Vers des pages Instagram, plus miser sur la psychologie et prendre soin de soi plutôt que d'aller vers un mode de vie parfait qui peut exister, mais qui n'est pas quand même...
qui n'est pas vraiment la réalité.
Qui n'est pas quand même la réalité. On le voit de plus en plus. C'est un rêve vraiment se dire, mais j'ai toute une vie à côté d'essayer de...
C'est vrai, ouais, mais même moi, tu vois, alors que, enfin, je suis bien avec mon corps, je suis bien, tu vois, mais je vois des trucs, des meufs trop belles, abdos, machin, ou des assiettes, ou des gens qui se lèvent à 6h du mat, qui vont à la salle, et à 8h, ils sont avec leur café devant l'ordi. Mais des gens, bon, ça existe, hein, des gens comme ça, mais il y en a très, très peu. Et c'est ça aussi, moi, je dis sur les réseaux, parce que j'ai pas mal aussi de personnes qui viennent dans mes DM me dire, mais je me sens mal dans mon corps, je sais pas comment faire et tout. Je leur dis, mais déjà, si... Déjà, te compare pas, mais c'est humain de se comparer. En vrai, on se compare à tout le monde. Mais alors, compare-toi aux gens dans la rue, tu vois. Genre, les vraies personnes, c'est les gens qui sont dehors. Sur l'été, tu te compares pas aux photos Insta, tu te compares aux gens sur la plage, quoi.
Ouais. Parce que... C'est hyper dur et la comparaison, elle est présente partout. Mais moi qui répète toute ma journée ça, il y a parfois où je vais me dire, t'es en train de penser quoi là ? Je suis en train de regarder quelqu'un, me dire, ah ouais, mais c'est trop bien ce qu'elle fait et tout. Et après, je reprends le recul, mais parce que j'en parle quotidiennement. Et je me dis, même quand je pars en vacances et tout, il y a cette pensée de se dire, ah, je vais à la plage, c'est horrible. Ouais. Et alors que je pense à l'opposé de ça. Et même parfois, quand je vais aller courir à 5h du matin ou à 6h du matin et que je mets ça sur mes réseaux, je me dis, pourquoi j'ai mis ça ? C'est n'importe quoi. Et le lendemain, je vais montrer que j'ai rien fait de la journée et que ça va tout autant et que j'ai mangé McDo ce soir et que ce midi peut-être j'aurai pas le temps et que je vais y retourner et que demain peut-être je vais manger hyper équilibré, mais
il y a pas de règle en général. Même les personnes qui postent ça sur les réseaux, même elles se comparent, en fait tout le monde se compare avec tout le monde.
C'est
ça. T'as beau, enfin si même toi la meuf que tu trouves trop belle et que t'as trop envie d'être elle va vouloir être quelqu'un d'autre et elle va pas être contente non plus avec l'image qu'elle est. Donc en
exactement.
Fait c'est tout un cercle vicieux, il faut
tout
essayer
le monde
de...
et dans le monde du sport je le vois encore plus parce que le corps il est plus mis en avant. Et je vois des femmes qui doivent être le modèle de la majorité des filles en salle de sport. Et à connaître ces coachs, je me dis, mais le mal-être, il est énorme. Et je me dis, mais même là, et du coup, se comparer à quelqu'un comme ça, en fait, sa vie derrière, elle n'est pas heureuse non plus. Donc, voir, est-ce qu'on a envie d'être heureux en globalité ? Et très souvent, en plus... dans les troubles du comportement alimentaire ou quand on passe notre vie comme ça à se comparer, etc. Beaucoup me disent, mais là, je vis à 50% de ce que je peux vivre puisque, en fait, je suis toujours en train de penser à ça. Et je me dis, rien de plus beau que d'être libre, que d'essayer de retrouver cette liberté alimentaire. Mais du coup, c'est de retrouver cette liberté de vie en entier. Enfin, vraiment, c'est hyper important.
Et comment on évite d'arriver jusqu'aux troubles du comportement alimentaire, parce que moi je sais que par exemple j'ai des copines où j'ai déjà entendu je fais un régime, je fais tel truc, et on en parle ensemble et on voit bien que l'alimentation, tu peux avoir un rapport pas hyper sain, mais comment on évite d'aller là où ça rentre trop dans la tête et ça a trop d'impact sur la vie ?
Eh ben, c'est difficile parce qu'en fait, ça arrive...
On s'en rend pas compte, en fait.
Sans s'en rendre compte, donc c'est hyper difficile. Et très souvent, ça va venir de vouloir perdre un peu de poids ou parfois, ça peut venir très souvent d'une réflexion des médecins. Je trouve ça horrible.
Ah ouais,
les médecins, ils regardent l'ancien. Tellement le poids et du coup, l'IMC. Et donc, eux, au niveau médical, c'est pas bon. Et donc, ils vont dire vraiment, là, la prochaine fois, vous devez avoir perdu du poids. Et donc, cette personne, elle va se mettre... au taquet au sport, au taquet à faire attention. Et au début, la confiance en soi, elle va revenir parce qu'on arrive à tenir un vrai régime, parce que le corps, on préfère notre corps, etc. Et on peut commencer ça hyper naturellement et sainement. Et ça peut s'arrêter là, à se sentir mieux et s'arrêter là. Mais en fait, si on a déjà une petite faiblesse sur notre corps ou si on a un manque de confiance en nous déjà, mais rien qu'un petit peu, on peut aller au côté où ça devient extrême. En fait, au moment où on se dit, mais là, Ça prend plus de place que ce que ça ne devrait. Ça veut dire, même quand je vais au resto avec mes copines, je pense plus à ce que je mange et à ce que ça va impacter après que le moment même. En fait, à partir du moment où l'alimentation, ça prend vraiment plus de place que notre repas et que de se dire, ok, j'ai faim, j'ai pas faim. Se dire, ok, où j'en suis et devoir peut-être freiner la chose et de se poser.
Parce que là, on parlait très en mode alimentation, mais le sport, j'imagine aussi, dans les extrêmes, ça peut aussi être en mode... parce que si... Est-ce que ça existe, par exemple, les gens qui veulent, je sais pas, perdre du poids ou se muscler, machin, qui font trop de sport, genre c'est trop le sport focus au centre de tout.
C'est énorme. Déjà, tout le système compensatoire, donc il y en a beaucoup, beaucoup, ces fameux 10 000 pas. Qui...
Ouais. C'est pas vrai.
Pas, je crois que je les entends 20 fois par jour. Et en fait, de se dire, quand j'ai fait 10 000 pas, j'ai perdu 500 calories, mais du coup, c'est les 500 calories que j'ai besoin ce soir. Mais en fait, sans avoir fait ces 10 000 pas, t'as besoin de beaucoup plus que 500 calories ce soir. On a vraiment un métabolisme où demain, je tombe dans le coma. J'ai besoin de plus de 1000 calories largement. Donc rien que réfléchir, rien que là te parler, je suis en train de dépenser. Et en fait, manger, ça se mérite vraiment pas. On a besoin de manger pour vivre. Ouais. Donc on n'a pas besoin de faire une activité physique. Mais quand on rentre dans ce truc-là, on se rend compte qu'on peut compenser avec le sport. Donc plus on fait de sport, plus on va manger. Donc les personnes qui vont parfois, plus on peut manger. Donc les personnes qui vont être sujets à des crises, vont se dire, en fait, j'ai fait une grosse crise, je vais aller au sport pour compenser. Et là, ça va devenir excessif et c'est un cercle vicieux. J'ai fait du sport, je vais essayer de me restreindre, mais je vais refaire une crise, donc je vais faire plus de sport. C'est énorme. Et là, ces derniers temps, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais on parle de plus en plus de l'orthorexie.
Non, c'est quoi ?
C'est un truc du comportement alimentaire qui arrive et justement, c'est en fait la volonté de manger toujours sainement et pour notre santé. Et très souvent, ça va être lié au sport et à tout ce qu'on voit, par exemple, préparer tous les repas le dimanche soir pour toute la semaine. Ça va être génial pour plein de personnes et ça va être catastrophique pour d'autres.
Parce que justement, elles mangent moins les nutriments qu'elles ont besoin.
Et puis, il n'y a plus aucune place à l'envie.
Ouais.
Ça veut dire que notre repas du matin, midi, soir est prévu. Donc le jour où on va dire, viens, on va boire un verre et on va manger ce soir ailleurs. Ah, mais je sais que là, mon repas que j'avais prévu, il faisait 600 calories. J'avais telle de protéines, telle de lipides et j'étais rassurée par ça. Aller au resto,
ça détruit tout.
C'est tout de suite une angoisse énorme. Et je me dis, c'est rien. Ouais, et là, ça va... Enfin, maintenant, ça prend des ampleurs énormes.
Je connaissais pas ce type de...
Et donc du coup, ça va vraiment être manger sain et manger pour son corps et pour vraiment... Tout est pour sa santé, pour son physique. Il n'y a plus du tout de... Plus pour le plaisir. C'est l'alimentation santé.
Est-ce que tu trouves... Parce qu'on entend de plus en plus parler les TCA et c'est trop bien. Franchement, ça a mis même moi, tu vois, il y a encore 3 ans, je ne savais pas ce que c'était. Et j'ai appris sur les réseaux et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de personnes qui en souffraient. Mais est-ce que tu trouves qu'il y a des gens qui se disent avoir des TCA alors que non ? Est-ce que c'est parfois peut-être un effet de mode où les gens sont en mode...
Des TCA. Ouais, parfois, en fait, le mot, il est dit un peu à travers. Il y a des groupes de copines qui vont se dire, on a des TCA et en faire une vidéo. Et là, il y a vraiment... Et peut-être qu'elles en ont. Ouais. En fait, c'est ça le pire, c'est que peut-être qu'il y en a. Mais en fait, déjà, c'est un sujet pas drôle. Il y en a qui vont vraiment se dire, me le dire parfois mort de rire.
Ah ouais.
Mais ça peut tellement emmener à des choses, c'est vraiment pas drôle. Et apprendre, En fait, je pense que les réseaux, ça peut emmener, à TikTok, je sais pas, mais ça peut peut-être emmener parler de ce sujet, voir qu'il y a des vues, voir que machin, et peut-être même s'enfermer là-dedans, je sais pas. Mais un trouble du comportement alimentaire, c'est vraiment une maladie en elle-même. Donc on dit pas j'ai un trouble du comportement alimentaire comme ça. C'est pas obligé d'avoir un trouble du comportement alimentaire pour se sentir mal. Donc pour le coup, même si on se sent pas bien et qu'on sent que c'est avec l'alimentation et qu'on sent qu'on a un problème, on peut complètement le dire. C'est pas forcément un trouble du comportement alimentaire, mais on peut quand même travailler dessus. Et le travail, il peut quand même être long. Et on peut quand même se sentir mieux après y avoir travaillé. Mais encore une fois, les réseaux, je pense que c'est très bon pour plein de choses et très mauvais pour...
Il faut vraiment faire... Je pense qu'il devrait... Mais maintenant, là, avec la loi qui est passée, t'es censé dire photo retouchée. Donc, oui. Voilà. Bon, après, est-ce que tout le monde le fait ?
Non. Même pub et tout.
Pub, ouais, voilà. Mais normalement, tu... Parce que le nombre de gens qui retouchent leurs photos, qui font un vent de plus, un chat, enfin bref.
C'est énorme.
Facetune, c'est...
Moi, je m'en rends pas compte. Fou.
Ah, mais... Mais moi, au début, je m'en rendais pas compte. Et en fait, à un moment, j'ai une copine qui m'a montré, genre, mais regarde, là, ça se voit, il y a tel truc, tel truc. Et en fait, une fois que tu as capté une fois, tu captes que tout le monde le fait, mais pas forcément sur le corps, tu vois, même sur la tête.
En plus.
En fait, sur l'application, tu as un filtre où, genre, tu mets ta photo et tu mets améliorer. Et c'est l'IA qui s'occupe de te faire, tu vois, de réadapter un peu la taille de tes yeux, de te faire juste. Mais ouais, c'est des minus détails qui, au final, bah oui, ça correspond plus aux critères de beauté qui viennent de je sais pas où.
Ils sont peut-être mieux de poster ça.
Ouais, et du coup, mais c'est des mini trucs, c'est en plus des trucs que de base tu vois pas. Tu vois, moi je l'ai fait sur moi, j'étais choquée, j'étais en mode ah ouais, mais en fait, ça ma bouche d'un côté elle est moins de travers.
Ça met
elle est...
limite des complexes plutôt que se sentir.
Mais
mieux.
Oui, en fait, ça te crée des choses. Et du coup, au final, tout le monde a la même tête. Tous les gens qui utilisent l'application, tu repères parce que bah, tout le monde a le même réadaptation, la même peau un peu lissée, même truc et tout.
Ouais.
Et ouais, non, en vrai, les réseaux, faudrait qu'ils... Je sais pas qu'est-ce qui est
avoir
possible,
un recul,
tu vois.
Et puis même, parfois, il y en a qui vont arriver en me disant, bah là, depuis cette semaine, j'ai mis ça en place parce que j'ai vu un TikTok et rien que ça, je me dis, mais c'est ouf. En fait, l'information, elle est partout maintenant. Mm. Quelqu'un qui veut perdre du poids ou faire attention, il y a juste à écrire, même en vrai, sur Google. Sur Google, maintenant, il y a les réseaux, donc c'est plus que tout. Mais... Enfin, les gélules, les machins, les trucs, en fait, c'est ouf et tout. Et le truc, c'est que bah, les gens mettent ça en place sans même y réfléchir.
En fait, c'est ça. Il faut que les gens, les collègues, quoi, les gens qui font du contenu, peu importe qu'ils soient beaucoup ou pas suivis, maintenant, tu peux aussi, tes vidéos peuvent percer, même si t'es pas de base influenceur ou quoi, mais réaliser que c'est vu par des vraies personnes et que...
En fait, ça a un impact énorme.
En fait, c'est ça.
Même et si c'est une phrase, même si c'est... Écoutez, en fait, franchement, c'est vraiment Satan de manger du pain. Faut arrêter et machin. Et elle, peut-être que ça l'a aidée pendant un mois que la fille a perdu du poids. Mais en attendant, il y a des milliers de personnes qui l'ont regardée, qui aujourd'hui mangent pas de pain et qui du coup se restreignent de plein de choses. Et que dans deux mois, ben en fait, vont même plus pouvoir avoir une baguette devant elles parce qu'elles vont savoir qu'elles vont aller jusqu'au bout de manger la baguette ou jusqu'au bout de manger le chocolat et qu'ils vont même plus avoir une relation normale avec l'alimentation. Et ça emmène, enfin. Ça multiplie, je pense, tout ça.
Ouais, il faut faire attention, faire du recul.
Et parfois, c'est rien, en fait, je me dis. Et parfois, même vous mettez un truc. Et moi, je me fais la réflexion en me disant, peut-être que, alors que là, il n'y a aucun rapport. Mais c'est tellement que c'est une...
En fait, chaque petit truc peut être interprété, tu vois.
Vraiment.
Donc, ouais, des deux côtés. Que quand tu regardes, il faut avoir du recul. Quand tu publies, il faut se dire, mais peut-être que ce truc, c'est pas...
Exactement.
Parce que même pour nous, tu vois, c'est une photo de notre plat, on s'en fout, qu'on la mette ou pas, ça va pas changer notre truc. Mais peut-être que pour des personnes, ça va gâcher leur journée ou ça va...
Ouais.
Et tu nous disais aussi tout à l'heure que tu étais spécialisée dans l'endométriose.
Oui.
Ça, comment t'agis ? Parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de filles qui me suivent, qui en ont ou qui pensent en avoir.
Comment t'agis là-dessus ? L'endométriose, au début, je ne pensais même pas avoir un lien avec mes métiers. Je l'ai fait pour moi. Après mes opérations, j'ai plus fait de sport puisqu'on ne peut plus faire de sport. Et j'ai réadapté toute ma pratique sportive qui était en fait où je détériorais ma santé plus qu'autre chose et je devais un peu y prendre plus soin. Et donc aujourd'hui, en fait, j'y agis du côté diète en mettant l'alimentation anti-inflammatoire puisque D'accord. c'est une pathologie inflammatoire. Donc on va vraiment pouvoir apaiser. Ça guérit pas du tout. Je vais dire à quelqu'un après un suivi, il n'y aura plus de douleur, c'est impossible puisque dans tous les cas, jusqu'à la ménopause et même après, on a l'endométriose.
Ah, c'est tout, c'est à vie.
C'est à vie, c'est chronique et ça ne fera que évoluer dans tous les cas.
Ok.
Mais par contre, j'ai un peu dit une bêtise, ça ne fera pas que évoluer parce qu'en fait, elle sera toujours là. Mais par contre, on peut l'apaiser.
D'accord.
Elle ne disparaîtra pas, mais les opérations, comme parfois même les gynécos, ça peut être des traitements. Mais moi, naturellement, avec l'alimentation, on peut vraiment apaiser pas mal de symptômes. Et au niveau du sport, ben, j'apprends à faire du sport en fonction de mon cycle menstruel.
Okay.
Et en fait, à mettre un peu plus d'espace dans mon ventre et dans tous les organes, puisqu'en fait, il y a beaucoup de lésions. On a des lésions qui peuvent être dans des endroits différents selon les femmes.
Ouais, ça fait très mal en fonction du cycle.
Ça fait hyper mal et le ventre va être très souvent gonflé pour les femmes qui ont l'endométriose.
D'accord.
Et donc du coup, rien que de remettre de l'espace pendant notre respiration, c'est-à-dire qu'on va vraiment prendre le temps d'inspirer et dans notre ventre, dans notre cage thoracique, mettre de l'espace et d'expirer, de relâcher, d'apaiser un petit peu tout ça. Et en fait, on va remettre de l'espace dans tout le système digestif. Et donc... apaiser un peu, puisque quand on a l'endométriose, très souvent le système digestif il est très, très mal en point. Donc on essaie d'apaiser tout ça. Et j'ai appris au fur et à mesure en fait, d'adapter la pratique sportive et l'alimentation pour ça.
Qu'est-ce que t'aimes dans ton métier? Pourquoi tu fais ça et pourquoi t'as envie de continuer?
J'allais dire tout, c'est vraiment trop beau, tout rose. Dans mon métier, en vrai, en globalité, j'aime vraiment tout, que ce soit sport ou alimentation. Et surtout aujourd'hui, maintenant que j'arrive à faire que ce que j'aime vraiment, parce qu'en diététique, j'aime pas travailler sur tous les sujets, honnêtement. J'aime pas travailler dans les hôpitaux, j'aime pas faire plein de choses. Mais par contre, dans l'endométriose et pour les femmes qui sont atteintes de TCA, ça me passionne d'être en contact des gens, ça me passionne d'aider, d'avoir un retour. Ça veut dire que peut-être que pour les suivis diète, le retour, il va être au bout d'un an. Mais rien qu'avoir un contact de cette personne, de voir l'évolution et tout ça, après chaque cours, de me dire peut-être que la personne, elle est venue, sa journée était un peu nulle, elle ressort de mon cours un peu plus apaisée, ça me va. Et j'aime tout, en fait. J'aime partager aux personnes... le fait qu'il y ait vraiment plein de choses autour d'elle pour travailler sur le bien-être des personnes.
Et pour le futur, tu veux faire quoi? Tu vois comment là, les 10 prochaines années?
Il faut un peu que je recentre mes projets parce que je peux partir très vite dans tous les sens et c'est mon problème. Mais en tout cas, je veux continuer les consultations et multiplier les consultations au maximum que je peux, puisqu'évidemment, ça s'arrête à un moment donné. Et après, tout a un début, tout a une fin. Donc en fait, les patientes... ça va et ça vient, donc ça c'est génial. Et si je peux développer ça un maximum et faire entendre ça à un maximum de personnes et aider le plus possible. Et pareil, montrer au niveau du sport peut-être... en fait, j'aurais envie que ces informations deviennent gratuites à un maximum de gens, même au niveau du sport. Par exemple, quand je fais vraiment des séances de sport pour réussir à apaiser les douleurs et tout, je me dis, j'aimerais tellement... montrer ça à tout le monde. Et donc je commence à faire beaucoup de vidéos, même à parler d'abdos hypopressifs, à faire hyper attention aux organes et tout ça, en tout cas donner accès à ces informations au plus de personnes possible et dire vraiment que c'est possible de s'en sortir naturellement.
Et pour finir, est-ce que tu aurais un mot à dire aux auditeurs, quelque chose qui te tient à cœur, que tu as envie de partager?
Quelque chose qui me tient à cœur, c'est difficile. Pour les auditeurs, en global, j'ai envie de vous dire que l'alimentation, elle est aujourd'hui au cœur de notre vie à tous. Et qu'il faut vraiment prendre ces sujets pas à la légère. Si vous sentez que vous avez, vous, quelque chose qui ne va pas bien au plus profond de vous-même, en fait, vous n'êtes jamais seul. Ça veut dire que peut-être que la personne à côté de vous actuellement, ou peut-être que quand vous êtes dans la rue... Beaucoup de personnes ont les mêmes pensées niveau alimentaire. Beaucoup de personnes ne vont pas bien. Beaucoup de personnes ne se sentent pas bien. Et c'est quelque chose sur lequel on peut vraiment travailler. Et plus on en parle, plus ça va. Donc vraiment d'oser en parler. Et moi, je trouve la vie tellement géniale. J'adore vivre ma vie à 100%. Et je me dis, c'est magique de m'être sortie de tout ça. Et donc, en fait, de montrer qu'il y a vraiment quelque chose derrière ça. Et qu'on n'est pas, on n'est pas que des TCA. Ça ne nous caractérise pas, qu'on va au-delà de ça. Et vraiment de dire... En vrai, ce que je répète toute la vie, toutes mes journées, mais de profiter de la vie à 100% et d'essayer d'aller au bout de chaque projet.
Et le premier geste à faire, si par exemple, là, après avoir écouté ça, certaines personnes ont besoin d'aide, c'est quoi? Appeler son médecin ou se renseigner sur Internet ou la base du truc pour entamer un processus?
Alors, les médecins vont être très souvent pas spécialisés en troubles du comportement alimentaire. Aujourd'hui, ils ont quand même, ils savent ce que c'est évidemment, ils ont quand même, et ils peuvent peut-être envoyer vers les professionnels qui sont dans les villes de chacun. Après, regarder des professionnels qui sont spécialisés en TCA, des nutritionnistes qui sont spécialisés, même au niveau du sport, si on veut travailler sur l'endométriose, ou en tout cas faire appel à des professionnels quand ils sont spécialisés. Ça veut dire que des diètes, des nutritionnistes, des coachs, on est 1000. Mais par contre, chacun va avoir sa spécialité et ça va être très différent. Je vais être incapable de prendre en charge certaines pathologies, comme je vais adorer prendre en charge des troubles du comportement alimentaire, mais c'est chercher en tout cas un professionnel qui nous correspond.
Ok.
C'est le plus important.
Ok, bah merci beaucoup Aloïse.
Avec grand plaisir, d'être venue, merci à toi.
D'être venue dans le podcast. Du coup, tu disais, tu as un compte où tu partages un peu des vidéos si les gens veulent retrouver...
J'ai un compte où je partage des vidéos et où j'essaie de mettre un maximum de conseils, même si ce n'est pas du tout que sur ça. Mm. Mais en tout cas, j'ai un compte où je partage des vidéos pour justement voir le sport un petit peu autrement et voir l'alimentation autrement. Je mets... pas tout ce que je mange parce que du coup je déteste
ça.
Mais en tout cas je montre que j'ai une vie complètement normale pour une nutritionniste et ça peut faire du bien.
Et ben on mettra le arrobase en description si vous voulez aller voir. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci.
J'espère que vous avez aimé cet épisode, que ça vous aura aidé, que ça vous aura appris des choses. Et puis je vous dis rendez-vous mardi prochain pour le prochain épisode. Cordialement, Zoé.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.